Jean-Louis Dessalles, alors on va arriver maintenant aux infos, aux déclarations, on va dire cette fois positives, non pas de distance critique. La première, peut-être qui est d'une certaine manière la plus saisissante, c'est que l'homme est dans l'obligation de parler.
Voilà, c'est-à-dire que c'est certainement, on peut le dire de manière indirecte, sinon ce comportement disparaîtrait. Mais quand même, ce constat est tout à fait étonnant dans la mesure où, en parlant, l'homme donne des informations utiles à ses concurrents génétiques. Quand vous donnez des informations sur ce que vous avez vu d'important, parce que c'est ça qu'on rapporte, hein, c'est des faits insolites ou qui présentent un certain enjeu, donc on va rapporter, quand on vient raconter quelque chose à ses amis, on leur dit, vous savez pas ce que j'ai vu, et donc en général, ce qui vient derrière, c'est quelque chose qui est pertinent, important pour les autres. Donc c'est une forme d'aide. Pourquoi va-t-on aider les autres? Et donc ça, normalement, c'est en général des comportements qui sont éliminés par les sélections naturelles. Or nous le faisons à longueur de journée.
Oui, éliminé parce qu'on peut imaginer que les individus seraient plutôt concurrents, voilà. dans l'accès aux ressources, ainsi de suite.
Voilà, nous descendons d'individus, nos ancêtres étaient des individus qui ont réussi à mieux exploiter les ressources que leurs frères ou cousins. Et donc, ils n'avaient pas nous descendons a priori pas de ceux qui ont passé leur temps à aider les autres. Nous devrions descendre des seconds et pas des premiers. Donc comment expliquer le langage dans ces conditions?
Est-ce que c'est dans un environnement général qu'on peut considérer sous l'intitulé de l'altruisme, mais au sens sous lequel on l'entend dans l'histoire naturelle, dans la zoologie?
Ah, tout à fait, le langage est altruiste. Hein. Et c'est ça qui le rend problématique. Alors, on pourrait dire, oui, mais c'est parce que nous sommes une espèce, nous avons la civilisation. Il ne faut pas croire du tout que le langage est altruiste uniquement dans les populations dites civilisées. La forme de langage que nous avons est universelle. Nous ne connaissons pas de population qui soit mutique. Et la forme avec laquelle nous usons du langage, qui est essentiellement donc celle dont on parlait tout à l'heure, d'attirer l'attention sur des aventures ou des phénomènes insolites ou présentant un enjeu, ou alors en argumentant. Hein, ce que nous avons en ce moment, nous argumentons. Ces deux formes-là sont universelles. On les rencontre partout sur la planète. Donc en fait, c'est pas lié à une espèce de politesse ou c'est pas culturel. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. Alors, comme vous dites, il semblerait qu'on soit obligé de parler. On peut pas s'en empêcher d'ailleurs.
C'est vrai que d'imaginer un instant quelqu'un qui soit dans le mutisme permanent est inconcevable. Alors ça serait une situation pathologique, bien évidemment.
On peut demander aux auditeurs de faire une expérience très simple. Ils arrêtent de parler pendant une semaine. Ils font l'expérience et après on regarde ce qui leur arrive. En général, on commence à être mis de côté. Les gens font plus attention à vous. Après, ils considèrent que votre comportement est pathologique. Et à la fin, on vous amène peut-être chez le psychiatre.
C'est-à-dire pour savoir si vous n'êtes pas un peu autiste. Oui.
Voilà.
Oui.
Il en est de même. En fait, le problème, ce n'est pas seulement de parler ou de ne pas parler. C'est de parler bien. Celui qui commence à faire des interventions inadéquates, décalées, on commence à le regarder de travers, on continue par le fuir, on ne s'intéresse pas à lui, et à la fin, pareil, il se retrouve, si vraiment il est décalé, il se retrouve chez le psychiatre, il se retrouve interné.
Donc, exemple, en fait, si je vous dis un nuage moutonneux.
Voilà, brusquement en plein milieu de l'émission, donc je ne serais peut-être pas le seul à me poser des questions sur
ma situation mentale. Bon.
Exactement. Donc, en fait, là, il faut expliquer quelque chose et l'explication n'est pas facile à trouver. Donc, en fait, les gens ont tenté d'expliquer, de comparer l'information qu'on donne. Ils ont utilisé une métaphore marchande. Je donne une information à l'autre, il va m'en rendre d'une même qualité. Bon, ça ne marche pas bien, ce genre de scénario. On n'arrive pas du tout à expliquer pourquoi les gens se battent pour prendre la parole. Hein. Dans certaines cultures, quand les règles de politesse le permettent, ils vont essayer de lutter pour parler, et c'est pas du tout une sorte d'économie de l'information dans laquelle, au contraire, on devrait faire attention de savoir si l'autre va bien. Dans une économie de troc, on fait très attention à qui on parle. Bon, là, c'est pas du tout le cas. Les humains se battent pour parler. Les humains sont bavards. Il y a beaucoup plus de bavards que de taciturnes dans l'espèce humaine.
Et vous dites aussi qu'il y a évidemment beaucoup plus de gens qui veulent parler que de gens pour les écouter.
C'est plutôt les auditeurs qui manquent, j'espère que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Mais en général, effectivement, on a tous cette expérience dans les cercles d'amis où désespérément on cherche du regard quelqu'un qui veut bien vouloir écouter la fin de son histoire. Donc ça cadre pas du tout avec un scénario marchand. Donc en fait, il faut trouver une autre explication.
Et dans cette logique-là, il y a une chose, il y a un trait très saillant aussi, d'ailleurs, il faut qu'il le soit, justement. Si par exemple je dis la poubelle verte, c'est l'exemple que vous utilisez. La poubelle est verte, alors que majoritairement les poubelles sont vertes à Paris.
Voilà.
Et si donc, sortant de chez moi, ayant rendez-vous avec vous, je vous dis la poubelle est verte.
Alors tout de suite une réaction d'incompréhension, parce que nous avons cette obligation d'être pertinent. Il faut dire quelque chose qui présente un intérêt. Si on dit, donc ça c'était, j'avais demandé à un étudiant, il avait trouvé cette phrase, il l'a prononcée avec ses amis, et donc on lui a dit, mais pourquoi tu dis ça? On cherche absolument une raison, parce qu'on ne fait pas tout de suite l'hypothèse que l'autre est fou, hein, on cherche une explication.
Donc, oui, il vaut mieux dire, j'ai vu une poubelle furieusement mauve avec des paillettes par exemple.
Là c'est beaucoup plus efficace.
C'est ça. Et alors dans ce cas-là, ben, c'est une illustration un peu moqueuse, mais d'une loi très très importante sur laquelle vous faites fond. Jean-Louis Dessalles, qui est qu'on doit à Claude Shannon, le grand théoricien de l'information, qui date des années du milieu des années 40.
Voilà, alors, Claude Shannon, qui malheureusement est décédé l'an dernier, mais à la fin des années 40, qui a de 1940, a produit une théorie dans un tout autre contexte, hein, c'est celui de la technique des télécommunications. C'est celle de sa fameuse théorie de l'information, vise à quantifier l'information. Donc quelque chose présente, véhicule une information importante s'il est improbable. Donc si je vous dis aujourd'hui à midi, enfin demain à midi il fera jour, ça n'a aucun intérêt. Du point de vue de Shannon, c'est une information très faible. Si j'ai dit demain à midi il fera nuit, donc là, pour X raisons, enfin là il y a une information. D'accord ? Donc on peut dire qu'elle est fausse, on peut ne pas y prêter attention, mais il y a une information. Donc en fait, toute notre espèce est très orientée vers l'information. Et donc, ça, il faut l'expliquer. Nous communiquons, et ce faisant, nous aidons nos congénères, parce qu'en général, les événements qui en rapportant des événements qui sont chargés d'information, nous leur rendons service. La question de savoir pourquoi. Et donc, comme je disais, l'explication n'est pas facile, et donc j'ai essayé de concevoir un modèle qui tienne la route pour expliquer ce comportement.
Et votre modèle, je crois qu'on peut le dévoiler. C'est un modèle qui fait, là, cette fois, fond sur l'hypothèse qu'il y aurait, évidemment, un déterminisme politique.
Ah voilà, si on dit le mot directement, ça paraît un petit peu bizarre, mais effectivement, le lien, c'est le fait que nous parlons pour nous montrer. Hein, pour montrer une compétence. Cette compétence, c'est la capacité de savoir avant les autres, la capacité de pouvoir expliquer mieux que les autres. Donc ces compétences-là, nous passons le plus clair de notre temps à le montrer, et en fait, finalement, ça nous permet de porter un regard sur l'activité langagière, qui est une sorte de compétition, hein, une sorte d'arène, quand nous parlons, en y prenant beaucoup de plaisir, hein, comme toute compétition, mais nous essayons d'être au moins aussi bon ou meilleur que l'autre, pour cet aspect-là, essayer de montrer qu'on est bon. Alors pourquoi essaie-t-on de montrer qu'on est bon sur ces chapitres-là, de savoir avant les autres? Eh bien, dans le scénario politique, c'est-à-dire, en fait, il s'agit de choisir, c'est un critère pour choisir ses amis. Nous choisissons nos amis, nos alliés. L'idée, c'est que l'espèce humaine est une espèce politique. Les chimpanzés aussi. Hein. Les chimpanzés sont une espèce politique. Et, le fameux bouquin de Franz De Waal, qui s'appelle la politique du chimpanzé.
Oui, jeu d'alliance, de contre-alliance, c'est ça.
Voilà, hein. Oui. Donc, alors, les chimpanzés vont aussi se choisir, mais leur critère principal, ça va plutôt être la force physique. Pourquoi? Parce qu'ils forment des alliances avec deux, trois individus. Donc, quand vous avez deux alliances, deux coalitions qui vont se faire face, la force physique est essentielle. Si on suppose que chez les humains, les coalitions sont plus grandes, peut-être une dizaine d'individus, hein, ou 5, 6, 7, quand vous augmentez, à ce moment-là, il y a d'autres critères qui entrent en ligne de compte, notamment la capacité à savoir avant les autres. Donc en sachant avant les autres, vous pouvez faire de la politique, vous savez qui est avec qui. Donc en fait, cette capacité, c'est celle que nous montrons par le langage.
C'est une manière d'anticiper l'information, alors là encore.
Tout à fait.
Par rapport à l'exemple que vous donniez. Juste l'espace d'un instant, Vous donnez aussi, vous venez de prendre l'exemple des chimpanzés, mais vous donnez un très bel exemple qui est tiré cette fois d'études d'éthologie qu'on doit à Motz Zahavi sur un petit oiseau des zones désertiques qu'il a étudié assez longuement et où vous montrez que ils ont des comportements qui sont des comportements de statut social, de faire-valoir permanent.
Alors oui, c'est un oiseau qui répond au joli nom de Cratérope écaillé.
Oui, le Cratérope écaillé.
Voilà, qui vit dans le désert, dans le semi-désert, c'est-à-dire qu'il y a des petits buissons, et donc les troupes de Cratérope vivent dans les buissons. Donc c'est essentiel de choisir ses alliés pour défendre le buisson. Et ces animaux ont des comportements tout à fait bizarres, qui rappellent un peu le langage, puisque le langage, on l'a vu, est altruiste. Ces animaux font de la compétition pour savoir qui sera le plus altruiste. Donc en fait, un animal va essayer de nourrir un autre, et si un autre... Donc il y a deux petits oiseaux, il y en a un qui nourrit l'autre de manière ostensible, et il y en a un troisième qui arrive et qui va dire « Non, c'est moi qui le nourris ». Donc en fait, ils sont en compétition pour se montrer sympathiques. Pareil pour monter la garde. Ils vont monter la garde et
comportement
si,
d'alerte. Oui.
Voilà, le comportement d'alerte. C'est un comportement risqué, c'est altruiste, parce que celui qui montre la garde, il s'expose au prédateur. Et donc, en fait, celui qui a un statut plus élevé va le déplacer et dire non, c'est moi qui monte la garde. Donc, en fait, ils ont une espèce de compétition. Et pour l'expliquer, on peut soupçonner que l'explication est la même que pour celle que le langage chez les humains. C'est-à-dire qu'il s'agit de montrer une capacité. Et pour être choisi comme allié. Hein. C'est en gros, donc t'es doué pour tel et tel comportement, viens dans ma bande. Donc c'est un petit peu la même explication qu'on va invoquer dans le cas du langage et des humains.
Et donc, dans ce cas-là, c'est par les artifices ou la pratique permanente du langage d'obtenir donc des alliances serrées et par là même aussi d'augmenter sa puissance.
Oui, c'est en étant allié. Dans le contexte des humains, c'est une condition essentielle pour survivre et réussir. Une des raisons, c'est parce que si les autres s'allient, il est essentiel d'être soi-même allié. Hein, si les autres ont des amis, il faut avoir des amis. J'avais un collègue américain qui a pris une métaphore qui était celle du Far West. Hein, quand les colons sont arrivés, il n'y avait pas de loi. Les shérifs, ce marché ne sont pas installés tout de suite. Donc la seule façon de rester en vie, enfin il y avait deux façons de rester en vie, c'est soit de tirer très vite, hein, d'être le meilleur tireur et de toujours marcher dos au mur. Et l'autre façon, c'était d'avoir des amis. Donc si on est sûr que sa mort sera vengée, on n'a plus besoin de porter des armes. Donc dans l'état de nature, l'assurance vie, ce sont chez les humains, c'est les coalitions, le fait de pouvoir afficher qu'on appartient à une coalition fiable. Et donc, la conséquence, c'est qu'il faut vraiment bien choisir ses alliés. Et l'idée, c'est que le langage est un des critères, c'est sans doute pas le seul, c'est un des critères par lesquels, au quotidien, nous jaugeons nos congénères pour savoir si on va en faire des alliés.
Alors, en stricte conclusion, Jean-Louis Dessalles, si on suit votre thèse, c'est donc, il faudrait mettre comme événement causant l'organisation sociale de l'espèce humaine qui serait donc productrice du langage, c'est bien ça.
Voilà,
si on met les choses dans le bon ordre selon vous.
Dans le bon ordre, c'est ça, c'est pas l'inverse, c'est-à-dire que il y a les deux, pardon. C'est-à-dire que en fait cette structure politique très particulière du langage aurait créé la niche dans laquelle le langage est apparu. Donc notre espèce étant politique, ça crée une niche dans laquelle le langage a pu apparaître. Et inversement, ça nous permet d'avoir un regard différent sur notre capacité langagière. Hein. De même qu'il y a une lutte pour la vie dans le contexte darwinien, notre vie quotidienne est régie par une espèce de lutte pour la pertinence. Il s'agit de se montrer pertinent. Et donc ça nous donne, enfin, ça invite à avoir un regard nouveau sur notre organisation sociale, qui est un regard, j'ai envie de dire, politique, au sens de politique de la tribu.
Cette thèse-là, comment a-t-elle été reçue? On peut constater que vos idées sont publiées depuis peu de temps. Hein, je crois que cet ouvrage a été publié en l'an 2000. Hein. Est-ce que vous avez eu déjà des réactions à ces thèses? Juste pour finir en quelques mots.
J'ai surtout des réactions positives. Moi, je m'attendrais surtout, j'aimerais bien avoir des réactions critiques. Pour l'instant, on est dans une période où la question de l'origine du langage est une question neuve. Et donc, finalement, tout le monde écoute tout le monde. Et donc, on n'en est pas encore à faire des territoires, à essayer. Donc, en fait, effectivement, j'ai eu un trop bon accueil, j'ai envie de dire. Moi, j'ai eu une tarte d'être arrivé à la période où il y aura effectivement des critiques.
Des opposants critiques.
Voilà, ce qui me permettra sans doute d'affiner le modèle, hein, c'est dans ses grands principes.
Mais soit les accepteurs, soit les objecteurs peuvent se recruter dans de nombreux milieux. De toute façon, on peut imaginer des anthropologues physiques, des ethnologues, des théoriciens du langage, bien évidemment, des spécialistes des sciences cognitives, et évidemment tous ceux qui travaillent dans le grand paradigme de la naturalisation des choses humaines, si on peut dire.
Alors, c'est exactement dans ce contexte interdisciplinaire que ce modèle a vu le jour, et c'est de tous ces collègues-là, c'est peut-être pour ça que les réactions mettent du temps à venir, mais c'est dans ce contexte interdisciplinaire et de naturalisation des phénomènes cognitifs en général qu'on espère que ce genre de thèse va se répandre.
Jean-Louis Dessalles, je vous remercie. Titre de l'ouvrage, c'est « Aux origines du langage », avec comme sous-titre « Une histoire naturelle de la parole ». Il est publié dans la collection Science aux éditions Hermès. C'était Continent Science, Christian Fontaine, Yaël Mandelbaum, Anne Franchini, Stéphane Delisgeorges.
Si vous voulez nous écrire, notre courriel est continentscience@radiofrance.com.
Merci de votre attention, merci de votre fidélité et bonne fin de matinée sur France Culture.